Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, le paddock RMC, le rendez-vous des zinzins de Formule 1. C'est tous les lundis sur rmc.fr, à toutes les plateformes de téléchargement paddock RMC, hein, que vous retrouvez désormais toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison. On vous en fait la promesse. Il y a encore eu un Grand Prix de dingue ce week-end à Bakou en Azerbaïdjan. On a l'impression qu'on ne peut plus anticiper le scénario d'un Grand Prix de Formule 1. C'est fou ça. Alors que les ingénieurs sont capables de tout analyser, il se passe tout et n'importe quoi dans ces week-ends de course et on se régale. Pour débriefer ce Grand Prix de Bakou, les ingénieurs du paddock RMC sont là. Jean-Luc Roy, Louis Gerbier et Paul Lafitte. Salut les gars.
Salut les gars, salut à tous.
Non mais c'est vrai ça Jean-Luc, on n'arrive plus à savoir ce qui va se passer en Formule 1. Avant le vendredi on savait un peu, maintenant c'est terminé.
Ah bah écoute, les pilotes ne le savent pas, les ingénieurs ne le savent pas, enfin personne ne sait. Donc je vois pas pourquoi nous on le saurait, non c'est fabuleux. Blague à part, c'est vraiment génial parce qu'effectivement les écarts sont tellement serrés, on le voit à chaque fois, on le redit à chaque fois, quel que soit le circuit, quel que soit le tracé. Et comme personne ne sait ce que les améliorations qu'ils apportent vont réellement donner, non c'est fabuleux. Bah, c'est une très 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 belle période de la F1, il faut le dire et le redire parce que bon... Tu vois, je sais, on peut me charrier parfois, c'était mieux avant. Eh ben non, c'est mieux maintenant, dis donc.
Ah, j'adore quand tu démarres un podcast comme ça. Là, tu me mets la patate, mon Jean-Luc. 17e manche du championnat du monde, c'était à Bakou avec une victoire exceptionnelle d'Oscar Piastri. Encore lui, très certainement le meilleur pilote du moment. On va en parler bien évidemment avec les ingénieurs. On va revenir sur la remontada folle de Lando Norris, Max Verstappen qui galère encore. Williams qui nous a fait un grand prix exceptionnel et une nouvelle fois, ça vous en avez un peu l'habitude si vous nous écoutez depuis le début de l'année, Alpine qui est en pleine galère. Les gars, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Le paddock RMC.
Avant de revenir sur cette course folle, les classements les gars, bien évidemment vous en avez l'habitude. Victoire donc d'Oscar Piastri sur sa McLaren, 11 secondes d'avance quasiment sur la Ferrari de Charles Leclerc. C'est George Russell qui complète le podium. Lando Norris qui partait 16e sur la grille, termine 4e et prend encore des points à Max Verstappen, seulement 5e. Bon, il n'en a pas pris beaucoup, il en a récupéré 3. Mais malgré tout il reste devant Verstappen. Alonso 6e, Albon et Colapinto 7e et 8e. On va revenir sur la perf de Franco Colapinto qui a déjà fait mieux que Logan Sargeant après deux Grands Prix. C'est assez dingue. Lewis Hamilton 9e et Oliver Berman 2e Grand Prix pour lui qui va chercher le point de la 10e place. Sauf que sur sa première course c'était avec une Ferrari, là c'est avec une Haas qu'il a pris des points. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pierre Gasly qui est 12e, Esteban Ocon qui est 15e et on reviendra sur ce crash entre Sergio Perez et Carlos Sainz qui se sont attrapés alors qu'ils visaient un podium. Le classement des pilotes, les gars. 59 points d'écart désormais entre Verstappen et Lando Norris. Norris qui grignote, pas assez, mais qui malgré tout continue de prendre des points sur Verstappen. Charles Leclerc est à 19 points de Lando Norris. Oscar Piastri, 4e du championnat. Il n'est plus qu'à 32 points, mine de rien, de son leader, Lando Norris. Il est en train de rattraper Norris. Et sinon, en championnat, on a Franco Colapinto, dont je vous parlais, là, qui en deux courses a quasiment marqué autant de points qu'Esteban Ocon. C'est assez dingue comme stat. Au classement des constructeurs, ça y est, on vous l'a rabâché depuis deux semaines. McLaren est passé devant Red Bull. 20 points d'avance pour McLaren, 476 points pour les flèches d'argent, 456 pour Red Bull. Ferrari est à 31 points de Red Bull et à 51 de McLaren. Voilà pour les chiffres. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Ah oui, Williams est passé devant Alpine. Sinon, voilà, petite info.
Alors, mon Nico, c'est les flèches papaya, hein, c'est pas
ouais.
Les flèches d'argent.
Oui, c'est pas grave, mais on a raison.
On a compris.
Ouais. Tu m'as compris, ouais, j'espère que tout le monde m'a compris. Bah Jean-Luc, tiens, on va revenir sur la course de Piastri. Piastri qui part deuxième sur la grille, qui arrive à undercutter la Ferrari de Charles Leclerc et qui fait une superbe course parce que bon, la McLaren était une bonne voiture, mais on avait l'impression que c'était peut-être pas la meilleure du plateau ce week-end et il a réussi à gagner. Deuxième victoire en carrière pour Piastri.
Bah écoute, il fait mieux qu'Undercutté, puisque c'est une vraie attaque, hein. C'est ça qui est fabuleux. C'est une vraie attaque après être passé par les stands. Non, il est étonnant ce jeune garçon, on peut dire de 23 ans. Il a une volonté de faire, il a impressionné même son équipe. Andrea Stella ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il les impressionne par son calme, par sa maîtrise. Je dirais, j'oserais dire presque trop, parce que là, cette victoire, autant la première en Hongrie, elle a été sujette à polémique, évidemment, il a fallu lui rendre la position, bon, il n'a pas aimé, j'imagine, gagner comme ça, un pilote n'aime jamais. Celle-là, il a été vraiment la chercher à la pointe de l'épée, c'est le cas de le dire, après avoir suivi, donc, pendant le premier stint, hein, en pneumatique médium, il a suivi la Ferrari, il a placé une attaque de très loin, à laquelle Charles Leclerc, il l'a dit honnêtement, ne s'attendait pas à cet endroit-là, pas maintenant, pas comme ça, et donc contre l'avis de son ingénieur qui lui a dit attends un peu, reste calme, et après bah, il a tenu pendant 31 tours. Non, c'est fabuleux, écoute, c'est vraiment une perle. On savait que c'était un vainqueur de Grand Prix en puissance, bah, ça on avait compris que c'en était un maintenant, mais là moi je dis clairement c'est un champion du monde en puissance, et puis on va certainement en parler plus tard, mais à l'inverse, même si Norris a fait une belle course, moi je me demande quel est le plus talentueux des deux. Ça y est, je l'ai dit.
Ah voilà, t'ouvres déjà le débat. Bah tu sais quoi, on va écouter Oscar Piastri et on va rentrer direct dans ce débat. Oscar Piastri après sa victoire au micro de Canal+.
Extremely happy. I think
je suis vraiment très heureux. Ce n'est pas ma première victoire, mais aujourd'hui la sensation est encore plus forte que pour la première. J'ai vraiment dû me battre pour gagner dans une voiture qui n'était peut-être pas la plus rapide aujourd'hui. Et ça me rend vraiment très heureux. C'est une de mes courses préférées de loin. Vous avez remarqué qu'on manquait de budget, les gars, dans le paddock. C'est le présentateur du podcast qui fait la trad. Hein.
Tu fais bien.
Ouais. Dans bon, le doublage. On peut faire un appel au don. Hein, si vous avez envie d'investir dans le paddock RMC, vous nous contactez. Hein, on prend tout, nous.
Ouais. Bon, il y avait une erreur, Nico. En fait, il a dit qu'il n'était pas content. Hein, mais bon, c'est pas grave.
Je t'attends au virage, Nico, pour l'interview de Colapinto en Argentin.
Je suis pas mal en espagnol aussi. Tu vois, je suis peut-être mieux en espagnol.
Je te disais que t'étais polyglotte, donc on est bien d'accord. On est bien
d'accord. Bon, les gars, ce débat, on va le faire, et on va le faire maintenant. On parlera de la course de Norris, de sa remontée un peu plus tard. Mais Piastri est en train de prendre le dessus clairement sur Lando Norris, et même sur les 7 derniers Grands Prix, lui, depuis l'Autriche, on va dire, c'est clairement celui qui est le meilleur dans le paddock. C'est le meilleur pilote du plateau.
Ouais, je sais pas.
Non.
Ouais, je sais pas.
Bah, au niveau des chiffres, en tout cas, c'est lui.
Ouais. Au niveau des chiffres, oui. Pour moi, le jour où il embête Norris, là où il vient lui foutre un peu sa course en l'air, pour moi, c'était pas une grande idée. Et j'ai bien aimé que hier Norris l'aide un peu à un moment, même si c'était pas hyper contraignant et que ça a pas duré longtemps. Il a un peu fait le boulot. Moi j'aime bien alors je suis un peu un doux rêveur, hein, mais j'aime bien les pilotes, pas qu'ils s'entraident parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on va dire qu'ils respectent le contrat, quoi, surtout quand t'es pas le premier. Mais c'est vrai clairement que sur la performance pure en ce moment, il est vraiment inarrêtable, et je pense que tout est résumé dans ce dive bomb, en fait, parce que si t'es pas en confiance, t'y vas pas là, hein, parce que c'est quand même assez impressionnant, hein, il part de si loin. Moi j'ai trouvé ça quand même fou, et c'est vrai qu'il est hyper jeune, il a 23 ans. Et surtout, on le répète à chaque fois qu'on parle de lui, mais aujourd'hui, il pourrait très bien être dans une Alpine.
Oui, ça c'est vrai.
Ça, c'est quand même
pourquoi tu ris, Louis?
Bah, je ne sais pas pourquoi je ris. C'est pour ne pas pleurer, Jean-Luc.
Ah bon, d'accord.
Non, mais il coche un peu toutes les cases.
Il coche
toutes les cases, ouais. ce Piastri, quand même, les gars. Paul, tu me dis ce que tu en penses, mais très bon pilote. Et surtout, ouais. Il est froid comme une lame. Là où on a l'impression que Norris s'effondre avec la pression, enfin s'effondre, le mot est fort, mais voilà, en tout cas, un petit peu plus de mal à gérer ses émotions dans les grands moments, à l'approche d'un titre. Alors Piastri, il est plus loin, donc il a peut-être beaucoup moins de pression que Norris. Ça doit très certainement jouer dans les perfs. Mais malgré tout, il montre quelque chose, un charisme, et il dégage une froideur qui impressionne.
Mais ça fait quand même maintenant pas mal de temps que je loue les qualités de Piastri, hein, un petit d'ailleurs que que Jean-Luc ou que les autres ingénieurs du paddock. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne se posent aucune question et qu'on a la sensation, évidemment, que, alors même si quand même, on rappellera que Norris a gagné à Zandvoort il y a quelques semaines, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de pression. On se rappelle de cette magnifique attaque hein, sur le poleman à Monza, qui avait d'ailleurs coûté eh bien, la deuxième place à Lando Norris. Piastri est aujourd'hui ouais, peut-être le numéro 1. Alors on se pose la question de savoir qui avantagé. Andrea Stella avait dit maintenant c'est clair, on va favoriser Lando Norris. Bon, alors sur les qualifications, le drapeau jaune a perturbé évidemment la séance, la Q1 de Lando Norris. Mais aujourd'hui, en vitesse pure, il n'a rien à envier aux Britanniques. Il l'a prouvé, comme le rappelait Louis, cette attaque de dingue quand même à Bakou hein, sur cette longue ligne droite de plus de 2 km, aller tenter ça sur Charles Leclerc. Et d'ailleurs, le pilote Ferrari, on pourra y revenir, l'a dit. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas vu venir. Hein. J'aurais peut-être un petit plus dû serrer. Il ne l'a pas fait. Et au culot, il a non seulement au 20e tour déposé Charles Leclerc, qui restait quand même sur une dynamique avec une victoire à Monza, une quatrième pole à Bakou. Ce qui veut dire que le gamin, aujourd'hui, ouais, ce n'est plus un gamin. Hein. Une victoire en sprint l'année dernière, 2 victoires cette année. Il vient jouer un petit peu les troubles faits. Et on peut penser, parce que maintenant, c'est vrai que Nico, tu le rappelles dans la présentation, c'est vrai que même s'il a encore grignoté 3 points Lando Norris, on voit mal quand même comment Max Verstappen ne pourrait pas être champion du monde, même si aujourd'hui il n'arrive plus à gagner, il n'arrive plus à monter sur le podium. Mais c'est vrai que les performances de Piastri sont à couper le souffle et il est aujourd'hui au niveau de son coéquipier, même peut-être, comme le rappelait Louis et toi Nico, peut-être un petit peu même devant son coéquipier aujourd'hui.
Jean-Luc a dit potentiel champion du monde quand même, Jean-Luc. Je pense que t'as pas dit ça de tous les pilotes depuis que tu commentes en Formule 1.
Mais
qu'est-ce qui te fait penser ça en fait chez lui ?
Bon, bah écoute, dans l'ordre, le talent, c'est une évidence, hein, comme vous venez de le dire et d'insister. Une attaque comme celle-là, sincèrement, c'est une attaque historique. Ça, c'est des attaques à la Senna, tu vois, j'ose, vraiment. C'est-à-dire oser, et c'est ce qui fait la différence. Rappelez-vous Verstappen au début. Bon, il était un peu brouillon, le garçon, mais il osait. On lui disait, mais comment tu fais pour passer à ces endroits-là ? Ben, j'y vais. Et ben, c'est ce que fait Piastri. Si tu veux, il n'est pas en pégé parfois dans les habitudes de la Formule 1. Ah ben, je vais garder ce que j'ai, ah ben, je suis deuxième, ça va bien. Non, non, il y va. Il n'a qu'une envie, c'est de gagner. Et ça, comme on dit toujours, hein, calmer un pur sang, c'est toujours beaucoup plus facile que de faire avancer un percheron. Ben, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en plus, il est d'un calme, mais presque trop. Je te dis, moi, j'aurais aimé le voir exploser après une telle course. J'aurais aimé qu'il gueule dans la radio, qu'il saute partout. Non, non, il est dans une telle maîtrise, ça c'est absolument incroyable. D'abord c'est son caractère, je pense, et puis bon, peut-être qu'il expliquera un jour pourquoi il est dans une telle maîtrise. Est-ce que le jour où il va décrocher, parce que je dis bien le jour où il va décrocher son premier titre de champion du monde, est-ce qu'il sera aussi calme ? Je ne sais pas, mais là il est absolument étonnant. Et je te dis, autant Norris, bah, c'est un garçon extrêmement talentueux. Il va peut-être être champion du monde en plus, donc je ne vais pas commencer à me couper, il va peut-être y arriver quand même. C'est un homme talentueux, mais il est moins sharp, il est moins aiguisé, il est moins méchant, il est moins teigneux, j'allais
moins
dire.
Tueur,
voilà.
Ouais.
L'autre, c'est une teigne, voilà.
Ouais, c'est un tueur, c'est vrai.
Ouais, c'est un tueur.
Ouais, c'est un tueur. C'est un tueur. Le gars, en fait, ouais, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, il a 23 ans et sur tous ses moves. Et la froideur, c'est la froideur du serial killer, tu vois. C'est un vrai. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a pu la planter, il l'a planté exactement. D'ailleurs, quand il fait son coup à Norris aussi, il ne se pose pas la question de savoir s'il doit aider ou quoi. Lui, un peu comme Alain Schumacher, il va aller prendre chaque point et il emmerde les autres, si je puis dire ça comme ça.
Ce qui est impressionnant quand même chez Oscar Piastri, messieurs, c'est que non seulement il dépose Charles Leclerc sur peut-être la plus belle attaque de la saison, derrière, pendant 30 tours quand même, avec la pression de Charles Leclerc, hein, qui a quand même le museau de sa Ferrari dans l'aileron arrière de la McLaren, il ne lâche rien, il ne fait pas une faute. Ce qui veut dire que ouais, Jean-Luc parlait de charisme, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est capable, ouais, qui est capable de devenir champion du monde, c'est sûr, avec aujourd'hui peut-être la meilleure voiture, mais enfin c'est une belle démonstration de force, et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'Andrea Stella ait loué les qualités de son pilote à l'arrivée hier à Bakou.
Vas-y Jean-Luc.
Juste un mot, parce que je vais vous dire, pour moi maintenant, la bataille pour le titre de champion du monde, sérieux, hein, c'est une bataille à quatre. Parce que si tu prends, ok, je sais, on va me dire 222, bah oui, 235 Leclerc, 254, mais avec des bons comme ça, si Verstappen, encore une fois, ne marque pas du tout à une ou deux courses, et sur les sept à venir, tout est possible, accident, problème mécanique ou ce que tu veux, bah tu vas voir comment les trois derrière vont revenir. Et effectivement, entre 222 Piastri et 254 Norris, moi je dis que dès cette année, c'est une bataille à quatre pour le titre.
32 points ouais, d'écart entre Piastri et Norris. Et alors, Piastri, Verstappen, il y a combien? Il y a 80.
Ouais. Oui, oui, ça paraît énorme.
Pas les maths un lundi, Nico.
Ouais, bon, ah, déjà. Les maths un lundi, déjà, c'est dur. Mais un
après
lundi,
la nuit,
fatigué.
T'as passé, mon Nico,
ah ouais,
après
ah,
la nuit.
Ah,
non, non.
Ah là, me faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Me faites pas ça. Non mais c'est vrai que ça se resserre et c'est vrai qu'il y a un vrai débat maintenant, même si on se projette sur 2025, Louis, sur la hiérarchie chez McLaren à avoir. On sait que bon, c'est une équipe qui n'a pas fait de choix cette année, il n'y a pas vraiment de numéro 1, ça s'est un peu décanté sur la fin de la saison. On se demande encore maintenant, bon là ce week-end ils ont fait des choix par défaut parce que Norris est parti tellement loin, mais bon, on se demande s'ils vont faire des choix. Eux ils disent qu'ils vont en faire, mais c'est pas encore établi. L'année prochaine, est-ce que c'est pas Piastri qui doit attaquer en numéro 1 et sur qui on doit investir?
Bah, on aura sûrement cette réponse là à Abu Dhabi, parce que je pense que comme l'a dit Jean-Luc, il est plus que dans le match, et même il a la dynamique avec lui. Et mais d'ailleurs, dans les consignes de l'écurie, ils sont quand même toujours en retard, puisque ils avaient dit on donne pas de consignes. Là, Piastri avait embêté son coéquipier, ils avaient un peu perdu des points qui ça. Donc derrière, ils ont dit bon, ok, cette fois, ça sera des consignes pour Norris. Et là, Piastri gagne et revient dans le match. Et donc, du coup, maintenant, il y a potentiellement des consignes pour Norris à un moment où elles sont moins évidentes qu'il y a 15 jours, puisque bah, maintenant, il est vraiment revenu dans le match. Et là, limite, on le comprend s'il veut se battre, puisque, bon, bah, comme l'a dit Jean-Luc, là, ça peut aller excessivement vite dans tous les sens, en fait. Mais pour la saison prochaine, ça va être une sacrée épine dans le pied d'Andreas. C'est là, ça, cette affaire, parce que...
Enfin, c'est bon à gérer, hein, Louis.
Oui, oui.
Quand t'as deux, voilà, deux Mustangs comme ça, c'est
oui,
bon. Hein.
C'est mieux que gérer une écurie qui a deux tracteurs,
oui,
par exemple.
On va pas citer de nom.
On cite pas de nom.
On leur fait du mal.
mais bon, ça peut. Tu vois, t'as deux jeunes loups comme ça qui ont pas de titre. Alors peut-être qu'ils en auront un à Abu Dhabi, on sait pas. Mais enfin, ça va être sacrément intéressant à voir. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques folies et quelques sorties, que ça soit en piste ou en dehors. Quoi.
Les gars, celui qui a raté un peu le coche, c'est Charles Leclerc, on le disait. Paul 4e pole position consécutive à Bakou. Il avait quelques regrets, Leclerc, après la course. Il disait qu'il y avait eu deux erreurs d'appréciation, une de sa part d'ailleurs, sur l'attaque de Piastri. Il croit pas du tout que... Il lui ouvre un peu la porte, il défend pas parce qu'il se dit qu'il va pouvoir le redoubler. Et il y a eu une petite erreur aussi dans les stands. Ça s'est pas joué à grand chose pour Ferrari.
Ouais, non, ça s'est pas joué à grand chose, c'est vrai. Que puis encore une fois, il restait sur la dynamique de sa magnifique victoire à Monza, et cette pole là, il voulait vraiment la transformer le dimanche en une victoire, hein, mais c'est manqué encore une fois pour Charles Leclerc. Encore une fois, peut-être un bémol, parce que c'est vrai que sur l'attaque de Piastri, qui est magnifique, Charles Leclerc est battu, mais dans sa tête, il reste encore une trentaine de tours. Il pensait vraiment qu'il pourrait de nouveau, avec son DRS, porter une attaque sur
Piastri.
Ouais,
mais il défend pas trop, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il lui laisse la corde. Donc,
Il l'a pas vu venir, clairement.
Ouais, c'est ça.
Il était trop loin. Il était trop loin.
Mais encore une fois, Nico, pour tous les amoureux de Formule 1, et Jean-Luc le précisait, il le comparait à Senna, cette attaque, c'est quand même du pur bonheur pour les amoureux de sport automobile, de le voir de partir de si loin. Donc c'est vrai qu'il se fait planter, il reste 30 tours, et que derrière, il pensait pouvoir reprendre cette première place, et un déficit de vitesse de pointe dans la ligne droite, hein, il l'a dit Charles Leclerc, à l'arrivée. Donc, au final, c'est quand même la confirmation que lui aussi, c'est un des meilleurs pilotes, et qu'il est présent pour se battre jusqu'à la fin de la saison. Jean-Luc parlait de bagarre à 4, eh bien Charles Leclerc fait partie de ces 4 pilotes potentiellement à briguer, pourquoi pas, la couronne mondiale, même si c'est vrai qu'il part encore une fois peut-être d'un petit peu trop loin.
Il a retrouvé de la régularité, Charles Leclerc, parce que ça a été compliqué cet été, hein, à partir du Canada, ça a vraiment été dur après Monaco, et là on sent qu'il commence à retrouver un niveau de performance vraiment très, très constant. Jean-Luc, on va parler quand même de la la remontada de Lando Norris qui se trouve complètement en qualif, qui part 16e sur la grille, qui arrive à arracher une 4e place un peu inespérée en profitant du crash de Perez et Sainz, qui prend en plus le point du meilleur tour en course. Donc il s'en sort pas si mal Lando Norris, alors qu'après les qualifs, on se disait que bah, ça y est, c'était terminé, sa saison était pliée quoi.
Oui, oui. Non, c'est un formidable pilote, déjà, je commence par là. Alors, il y a eu une petite chance, c'est qu'effectivement, on a changé des éléments mécaniques sur la Mercedes d'Hamilton. Donc, du coup, il gagne un rang, ça a l'air de rien. Il passe de 16 à 15, mais surtout, il part
ouais,
à droite.
Il part 15.
C'est-à-dire,
ouais.
Voilà, il part du bon côté. Et ça, mine de rien, ça compte beaucoup. Ce qui lui permet, dans le premier tour, déjà, de gratter 3 places de mémoire, puis une 4e qui tombe derrière. Bref, il est tout de suite aux portes des points. Après, bon, bah, la stratégie qui a été choisie par McLaren et qui, évidemment, était la bonne avec les dur, hein. Ça lui permet d'aller jusqu'au 38e tour. Et c'est là, comme vous l'avez déjà souligné très justement, qu'il sert un petit peu aussi pour Piastri, parce qu'il retarde un petit peu tout le monde derrière. Donc bah, il fait un peu le bouchon, mais le bouchon, il roule vite hein, quand même. Mais avant de changer de pneumatique, effectivement, il est dans un rythme hein, légèrement inférieur, ce qui permet de donner un peu d'air effectivement à Piastri. Bon, la stratégie est magnifiquement exécutée. Lui, il fait une course bah, sans faute, hein, parce que partir au milieu du paquet comme ça, c'est pas évident, surtout dans les rues de Bakou, avec plusieurs endroits piégeux et des monoplaces avec très peu d'appui quand même, il faut le rappeler. Ouais. Donc ça peut susciter des fautes ou des erreurs. Non, il fait la course parfaite. Alors normalement, on le sait bien, il n'aurait pas dû terminer 4, hein, sa place était 6. Moi, tu vois, j'avais dit qu'il pouvait finir 7, donc c'est déjà formidable, il a fait mieux.
Tu la connais ta Formule 1, toi, quand même. Hein.
Bah, non, mais attends, je rappelle
pourtant,
ça.
Ça fait pas longtemps que tu es sur mais, ce sport.
Non, ça fait pas très longtemps. Puis tu sais, il y a beaucoup de chance dans tout ça. Tu dis quelque chose et après quand c'est faux tu dis rien, quand ouais, c'est vrai t'oublies. Tu dis ah ben je vous l'avais dit. Non, blague à part, c'est un très bon pilote, il est quand même en bataille pour le titre, il lui manque un tout petit peu cette agressivité, voilà, mais là il fait une course parfaite, il remplit les cases, bon il reprend que 3 points mais il passe quand même devant, hein, c'est important ouais. Psychologiquement, il passe devant sur la fin de course avec des pneus plus frais et des médiums, c'est bien joué, il fait la course parfaite, il peut pas faire mieux, et bon c'est pas à coup de 3 points qu'il va y arriver, mais il y en aura des gros à venir, hein, parce qu'il va pas partir 15e tous les dimanches, hein, ça je peux vous le dire aussi, et comme ça je pourrais vous dire après que je vous l'avais dit.
Et force Jean-Luc. Bon, on va l'écouter Lando Norris après sa folle remontée au micro de Canal. J'aurais dû finir 6e, mais on a eu de la chance avec le crash, on gagne 2 places. Et bien sûr, ça me rend très heureux parce qu'on ne s'attendait pas aujourd'hui à décrocher une 4e place, faut être clair. C'est assez incroyable, je suis content pour le team, pour Oscar aussi. C'est une nouvelle victoire pour lui et ça montre que l'équipe est au top. Oui, je suis toujours motivé pour le championnat, on a encore une chance et je fais de mon mieux, mais avec des jours comme celui des qualifs où ça vous échappe un peu sans raison, je me complique les choses, c'est sûr. On aurait certainement pu terminer aux 2 premières places sans ça, mais on a réussi à tirer le meilleur de nous après les qualifs.
Je vais partir dans le doublage après cet épisode.
Là, faut y aller.
Oh là là, mais il me semblait reconnaître ce bel organe. Ouais. Incroyable.
Il y a le prochain Pixar bientôt. Là, je veux entendre Nico.
Ah oui, moi aussi. Ouais.
Je vais peut-être postuler. Ouais, non, mais voilà, très content, bien évidemment, Lando Norris. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de charisme associé un peu à Piastri. Lando Norris aussi, c'est so british, quoi, Louis. Tu vois, même quand il analyse ça, il vient de faire une course de dingue. Tu sens pas ce petit côté ouais, sulfureux qu'un Verstappen, un Schumacher à l'époque, vous osiez la comparaison avec Piastri et Schumacher tout à l'heure, mais c'est vrai que quand t'entends Norris, ouais, c'est propre, c'est gentleman.
Oui, et puis c'est surtout, c'est quelque chose à la rigueur qui me surprend presque, puisque quand il est arrivé au début, tu sais, c'était un peu... Monsieur,
il était chaud.
Voilà. Et puis dans les médias, il était très farceur, presque un peu gamin et tout. Et on dirait qu'il cherche aujourd'hui à tout gommer ou du moins à mettre ça juste dans sa sphère privée, parce que c'est vrai que aujourd'hui, derrière un micro, il est hyper lisse. Là hier, bon, il fait de 15 à 4. Ouais, bon, bah voilà, comme tu dis, c'est propre. Il dit pas un mot de trop. Il dit j'aurais pu faire mieux. On verra la semaine prochaine. Enfin, il dit plus rien, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle je m'attendais pas du tout de la part de Norris. Je pensais justement, comme tu dis, qu'il aurait un peu toujours ce côté chien fou. Et c'est vrai que finalement, il est moins. Moins fou dans le bon sens du terme, je parle. Hein.
Moins fun aussi,
même sur certains moves cette année en piste où on se dit bah il y a peut-être moyen de de faire un peu plus là ou de... Ouais, ouais, c'est vrai que la différence avec Piastri, c'est ça, c'est que l'autre est plus tueur.
L'info aussi du week-end, on le disait, Paul, c'est que McLaren reprend la tête de, enfin, prend la tête du championnat constructeur, que c'était pas arrivé depuis 10 ans, hein, 2014, sur le premier Grand Prix de la saison. C'est quelque chose de... Alors on s'y attendait, hein, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, ils vont le faire, voilà, mais ils ont réussi à le faire, avec un pilote qui part 15e sur la grille, qui était 16e, qui part 15e et qui arrive à aller chercher la 4e place. Ça confirme le boulot fantastique de McLaren, hein.
Ah bah écoute, chapeau évidemment, mais c'est vrai que Nico, tu le rappelles, on en parle depuis maintenant pas mal de temps dans le paddock F1 sur RMC, hein, c'est monoplace orange.
Ouais, mais même si on en parlait, tu vois, faut quand même le finaliser, ça, faut quand même arriver à le faire.
Non mais on le sentait venir pour deux raisons. La première, et messieurs, j'espère que vous n'allez pas me contredire, mais la première, c'est que la McLaren aujourd'hui est la meilleure F1 du plateau, et que à côté de ça, mais on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, y a-t-il un problème aujourd'hui chez Red Bull? Oui, et il y a même un problème, Max Verstappen qui a quand même été dominé ce week-end pour la première fois en qualification, ça faisait 33 qualifications qu'il terminait devant Sergio Perez, là, eh bien il est battu en qualification, en course, il est aux abonnés absents. Donc ces deux raisons font qu'aujourd'hui McLaren, oui, devrait normalement filer, quoique Ferrari n'est pas si loin non plus, mais McLaren devrait filer vers un titre de constructeur, je vais y arriver, ouais, à la fin de la saison. Et ouais, ce n'est pas surprenant, mais l'avènement de McLaren et le déclin de Red Bull, enfin je sais pas ce que t'en penses Jean-Luc et Louis aussi, mais alors vraiment de se poser la question.
Et de toute manière, on va rentrer là dans le sujet Verstappen, on va l'écouter Max et tout ça, mais juste avant, c'est quand même impressionnant de voir la prise de pouvoir de McLaren, Jean-Luc, et de voir comment ça s'est inversé, ouais, avec Red Bull, parce que là t'as vraiment la dynamique totalement opposée entre les deux écuries par rapport au début de saison. C'est fou, dans tout ce que dégage l'écurie McLaren, avec un patron qui incarne quelque chose de fort, t'es là, deux pilotes qui sont très forts, des perfs régulières, il y a encore en plus peut-être moyen d'améliorer certains résultats en course, mais t'as une vraie force qui se dégage de cette écurie là.
Attends, voilà, pour corroborer exactement ce que tu dis, Nico, je l'ai sous les yeux, hein, on va prendre course après course le total des points constructeurs depuis l'Italie. Alors, j'espère que ça ne va pas être trop chiant, mais écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Non, Italie déjà, 30 points pour McLaren, 29 pour Red Bull. Tu vas me dire, c'est que dalle. Monaco, 30 points pour McLaren, 8 points pour Red Bull. Canada, 28 pour McLaren, 25. La seule moment où effectivement Red Bull est devant, c'est l'Espagne. 29 pour Red Bull et 25 seulement pour McLaren. Mais alors après, 31-25, 27-18, 43-16, 28-19, 38-26, 34-12. Et là, ce week-end, 38-10. C'est vous dire que c'est pas d'hier, pour exactement corroborer ce que vous dites. On l'a vu venir quand même le coup, hein. C'est-à-dire qu'ils ont deux pilotes, une nouvelle fois. Deux pilotes, il faut quand même le rappeler, parce que là où Pérez était un peu absent, on avait mis son frère dans le baquet pendant quelques Grands Prix. Là, on l'a retrouvé. Heureusement, on a retrouvé Sergio dans les rues de Bakou. Là, il doit habiter dans le coin, à mon avis. Hein. Il connaît bien le coin. Et puis, on rappelle quand même qu'il a une série de succès. Et là, il aurait dû être sur le podium, immanquablement. Bon, on va parler de l'accrochage tout à l'heure. Mais ça y est, il a retrouvé la compétitivité. Parce que quand même si Verstappen a plein de raisons, comme Norris, d'avoir un peu raté ses qualifs, donc un peu raté sa course, il a été devant. Et lui, il n'a pas fait d'erreur, à part, bon, on va reparler tout à l'heure. Donc je veux dire, il a manqué un pilote à Red Bull, très clairement, pendant toute cette partie de la saison, et Verstappen faisait le boulot tout seul, alors qu'en face, il avait deux gaillards, dont on vient de longuement parler, qui eux additionnaient les points, et 135 seulement dans les 7 derniers Grands Prix pour le jeune Piastri. C'est quand même extraordinaire.
Ouais. Bon, alarme les gars, là c'est le moment de l'alarme. Alarme Max Verstappen. Non, parce que là Max il est pas
d'ailleurs,
bien.
D'ailleurs vous voyez toujours le budget, parce que aucun jingle n'est parti.
Oui, alors, totalement.
On va le faire.
Tu veux que je fasse waouh. Non mais Julie, yes. Elle peut nous trouver peut-être un truc d'alarme, mais je l'ai pas prévenu la pauvre. Notre réalisatrice.
Je vais vous faire un bruit.
Pas anticiper. Voilà. C'est très bien fait. On est très très bon en doublage, ouais, définitivement, ouais, dans cette équipe.
On va
écouter.
On peut leur faire le Pixar, hein, tous ensemble.
On va écouter Verstappen après la course.
J'ai eu les mêmes problèmes qu'en qualification. Je ne pouvais pas attaquer les virages lents. La voiture rebondissait beaucoup. Je perdais le contact avec la piste. Donc ça a été difficile. C'est à cause des changements qu'on a fait avant les qualifications. Ça nous a coûté cher et la course a été extrêmement difficile, mais on ne va pas abandonner. C'est aussi simple que ça. On va continuer de pousser encore.
Alors il le dit avec un grand sourire.
C'est pas Nico là, voilà.
Si, c'est encore moi. Ça va être moi jusqu'à la fin. Sauf quand Pierre Gasly parle, là ce sera vraiment Pierre, mais sinon c'est moi. Ça je vous assure. Non mais voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que là on l'a pas en radio, mais quand il fait cette réaction au micro, il est détendu. Il a le sourire, il fait quand même passer un message, oui, en mettant un petit tir à son équipe en mode là, on a tellement voulu pousser les réglages loin qu'on s'est encore une fois trompé avant les qualifs, alors qu'on était bien sur le début du week-end. Donc voilà, tu sens qu'il est en galère, qu'il reste positif parce qu'il est devant, mais que bon, ça doit quand même en coulisses l'agacer fortement, l'ami Verstappen.
Il a passé quoi, quasiment 2 ans à mettre des roustes tous les dimanches à tout le monde. Donc j'imagine un peu cette descente qu'on a vu pointer le bout de son nez il y a quelque temps, mais qui s'est accélérée en fait depuis l'été là. Et là, enfin c'est un peu, non, c'est quand même, j'exagère, mais j'allais dire ils avancent plus. Mais c'est vrai qu'on les a tellement vus, loin devant que maintenant même les voir quelques secondes derrière, ça me paraît fou. Je suis toujours fasciné de toute façon par ces changements comme ça en quelques semaines d'hégémonie. Et je pense que dans la tête ça doit être dur, mais comme on l'a vu encore hier. Pas d'affolement, Norris me passe, je peux rien faire, je le laisse passer, moi je me mets derrière, je prends tous les points que je peux et moi je reste persuadé qu'il sera champion du monde dans quelques...
Tu penses que ça va pas craquer? Parce que lui peut-être qu'il craquera pas, mais il y a un moment où sa machine continue de baisser en perf.
Voilà, t'as raison, c'est mieux dit comme ça. Lui ne craquera pas. Après, c'est un sport méca et donc il est au volant d'une voiture qui peut elle craquer. Ouais, ça c'est une possibilité. Mais moi je te dis, il y a une différence entre ce que je veux et ce que je pense, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien que ça aille au bout, je trouverais ça dingue une saison où à la fin t'as une McLaren qui est devant, alors que si en mars tu nous poses la question, on dit Max, on peut déjà lui donner sa quatrième étoile, donc ça c'est vraiment ce que je souhaiterais. Après je pense qu'il va réussir à le faire parce que c'est Max, il maximise ses points et du coup je pense qu'il peut les tenir même en faisant des quatrièmes places, des trucs, un petit podium par-ci, puis il va quand même en rattraper une je pense sur les 7 et je pense que ça va se faire comme ça. Il aura sûrement un peu chaud aux fesses, un peu moins que les pilotes Mercedes dans leur baquet, mais à peu près pareil, mais je pense qu'il va le tenir. Vous en pensez quoi vous?
Alors moi je vais prendre la main. Je disais quand on avait fait un paddock sur McLaren, je disais que Lando Norris, je le voyais bien champion du monde à la fin de la saison, mais encore une fois si on se réfère,
c'était la semaine dernière d'ailleurs.
C'était la semaine dernière.
On peut retrouver
pas trop les ceux d'avant parce qu'on dit tout et son contraire. Cette saison est trop compliquée.
Elle est vraiment trop complexe cette saison. C'est vrai, t'as raison Louis. Mais je vois mal comment il pourrait perdre le titre de champion du monde s'il reste encore quand même pas mal de points à distribuer, et même si Lando Norris est toujours dans le match, il ne reprend pas assez de points. On parlait peut-être un petit peu de fébrilité à un moment donné lorsqu'il dominait notamment en qualification. Donc je pense qu'avec ses 59 points d'avance, s'il arrive à la régulière à finir 5, 6 ou 7, il faudrait pour ça que Lando Norris gagne les 7 derniers Grands Prix, courses sprint, ça paraît quand même un petit peu fou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez,
je suis le seul à être inquiet moi pour Verstappen, parce que bon, il se fait quand même dépasser là à la régulière en qualif par Sergio Pérez. Alors ça fait 3 mois que c'était Vincent Pérez qui conduisait la Red Bull, l'acteur français, c'était pas Sergio. Voilà, bon, là on a retrouvé Sergio. Ok, je suis d'accord avec vous, mais mine de rien quand même, psychologiquement, quand t'as un chiffre comme ça, une domination comme ça forte, et que là ça te passe sous le nez, c'est quelque chose d'assez évocateur pour la suite de la saison. Et puis tu sens que le gars il y arrive pas, les écarts, il finit à 1,17 de Piastri, alors que Norris qui est quatrième termine à 36 secondes. Il y a un monde d'écart, Jean-Luc.
Oui. Non, écoute, tout est maintenant, tu sais, en F1 ils le disent tous, tout est quand même dans les qualifs, quoi. Quand tu pars loin, après il y a les fameux trains de DRS, après ta stratégie elle est forcément différente parce que tu perds du temps, et j'évoquais tout à l'heure le fait que Norris l'ait retardé et tout. Il fait une course correcte avec d'où il partait, mais il fait pas mieux parce qu'en plus il est dominé par son équipier, et moi c'est ça qui me paraît caractéristique. Alors on lui a demandé, il était vachement honnête, il a dit: est-ce que les modifs qui ont été apportés à la voiture vont dans le sens de Pérez et pas dans ton sens à toi? Il a dit non, c'est pas du tout ça, c'est qu'on s'est planté en termes d'essai. Puis c'est tellement serré, encore une fois, j'y reviens. Il y a un élément caractéristique, tiens, entre la Q2 et la Q3, il n'a pas progressé. Il fait 1.42.042 en Q2 et 1.42.023. Enfin, il n'a rien gagné, quoi. Donc, le problème est là. Alors, on sait, il a été un peu gêné, il a fait une glissade à un endroit. Enfin, il y a toujours une raison. De toute façon, il y a toujours une explication. C'est ce qu'il est en train de dire. On s'est planté dans les réglages pour les qualifs, pour la Q3. Donc, on l'a trimballé pour la course. Bon, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Évidemment qu'il vaut mieux que ça. C'est évident que dès Singapour, peut-être, il va faire beaucoup mieux parce qu'il va être bien qualifié. Donc, je suis globalement d'accord avec vous, a priori 59 points c'est irrattrapable, sauf s'il y a problème, et entre autres mécanique ou accrochage, encore une fois, ou accrochage de Verstappen avec une Sainz Perez où lui il marque 0 et les autres marquent le maxi, ils sont tous les trois sur le podium, et là on va en reparler. Donc à mon avis c'est ça qui peut être la clé, voilà.
Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi, moi, Jean-Luc. Bon, je me mouille pas trop, je suis d'accord avec le goût. Je voulais revenir aussi sur le crash entre Sergio Pérez et Carlos Sainz, Louis, là, entre les deux, qui en plus jouaient des gros points. Sainz, en plus, c'était sur un circuit sur lequel il performe quasiment jamais. Sergio Pérez, il était en mode fantomas depuis 3 mois, même si c'est un circuit que lui apprécie beaucoup, mais bon, ouais. Ça faisait 3 mois que tu le voyais pas, donc c'était des points important pour les deux psychologiquement, et en plus l'accident il est bizarre, quoi.
Ouais, il est très bizarre, ces deux gentleman drivers. On sait quand même que les deux sont compliqués en piste, hein. Sainz c'est très souvent que les autres pilotes se plaignent de d'attitudes un peu étranges, de souvent dans les essais il se met au mauvais endroit, il s'en fout un peu, enfin voilà. Pérez, on le connaît aussi un peu. Et finalement, ce week-end, ils se sont un peu cherchés tout le week-end. Et à la fin, ils se sont bien trouvés. Alors là, ils ne se sont pas ratés. J'ai un peu de mal à dire à qui la faute.
D'ailleurs, les commissaires n'ont pas tranché. Hein. Ouais, ils ont dit que c'était un incident de course.
Parce qu'à la première vue, tout de suite, je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait, Carlos ? Ça se rabattre.
Voilà, »
Et en fait, sur les replays, il ne tourne pas vraiment le volant.
Ouais, il ne tourne pas le volant du tout. Ouais.
Et du coup, je...
Pérez est trop près de lui.
Et ce que disait le consultant Canal hier, Adrien Tambay, moi, si je dois choisir, je dirais que celui qui était un peu plus derrière, c'est-à-dire Pérez, c'est un peu plus sa faute, puisque il aurait pu l'éviter en soi, quoi. Même si, bon, oh, c'est chaud, là. Mais et puis surtout, quand ils foncent dans le mur, tous les deux, je trouve l'image, elle était un peu chaotique, quoi. Vraiment, les deux nez, là, comme ça, ils slidaient sur le mur. C'était très impressionnant.
Ils peuvent se faire mal, hein.
Ils peuvent se faire très mal, en plus.
C'est des chars d'assaut, maintenant, mais ils vont finir par se faire mal.
On sait que c'est des impacts, comme ça, un peu de côté, qui peuvent être, finalement, parfois plus violents que des choses à haute vitesse, mais où tu prends le mur, on va dire, bien, s'il y a une bonne manière de prendre un mur.
De face.
Hein. De face. Et donc, c'est vrai que c'était assez violent. Moi, je me suis un peu inquiété tout de suite. Alors, et puis, en fait, comme dit Jean-Luc, aujourd'hui, c'est tellement les gars, ils sortent de là, ils sont tout de suite, au bout de 10 secondes, ils s'engueulent déjà, ils ont déjà oublié qu'ils viennent de prendre 50G dans un mur. Enfin,
ouais, mais messieurs, à mes yeux, moi, c'est quand même plutôt un fait de course. Alors, peut-être que Pérez est un petit peu plus responsable que Carlos Sainz, enfin à ces vitesses-là, car les deux pilotes étaient à plus de 200 km/h. J'ai considéré ça comme un fait de course, tout simplement.
C'est tort partagé d'ailleurs, c'est l'avis des commissaires quand même, on va leur faire confiance, ils ont repassé toutes les images, y compris les cams embarqués. On voit bien, effectivement, on peut même pas dire 55-45. Les deux se cherchaient depuis le début du week-end. Et comme a dit Piastri, là aussi, vous rappelez de ce qu'il a dit, dans la chambre de décompression, là, avant de monter sur le podium, il a dit c'est la fin de l'histoire, ils se sont trouvés. Ils s'étaient cherchés en essai libre en qualif. Là, ils se sont bien trouvés. Là. Ouais.
Tiens les gars, je vous fais un on s'en fout, on s'en fout pas. George Russell sur le podium. On s'en fout ou on s'en fout pas?
Je connais bien cette chronique. On s'en fout pas.
Je l'ai absolument pas piqué cette chronique. C'est pas du plagiat. On s'en fout pas? Alors, vas-y Lou, on s'en fout pas.
On s'en fout pas parce que c'est un peu le roi du, de c'est le monsieur invité surprise sur les podiums. C'est pas la première fois que qu'il n'est pas prévu sur le coup. Il en gagne une cette année comme ça. La course qu'il gagne, j'ai un trou d'un coup là. C'est
ouais,
la fatigue aussi.
Ouais, c'est l'Autriche. C'est voilà. L'Autriche. Ouais, l'Autriche. Bah, les deux autres s'accrochent. Hein,
voilà, les deux autres s'accrochent. Bah, voilà. Il arrive comme l'Australien au JO de Salt Lake City là, tu sais, qui fait du roller. Oh là là, du patin à glace.
Du patinage sur glace, du short track, on appelle ça. Il y a tout le monde qui tombe devant et craque, il coupe la ligne.
Il finit médaille d'or parce que tout le monde tombe devant. Donc c'est un peu ça.
Vous êtes belle référence, les gars. Bravo. Magnifique référence.
Ah ouais, Sydney 2000, j'ai vu, ça a été mon enfance. Moi, je regardais pas
chapeau,
les Disney.
Chapeau,
ouais.
Louis.
et donc, du coup, ouais, pour moi, c'est ça. C'est plus ça, c'est pour rigoler, quoi. Il me fait rire parce que hier, il fait une course très bonne, Mais si tu veux, on en aurait jamais vraiment parlé s'il y a pas ça à la fin. Et hop, là, petit podium, ça fait toujours plaisir, un peu de champagne. Et donc voilà. Non.
Je voulais vous entendre surtout sur la course des Williams. Ouais, Jean-Luc, tu veux rajouter un truc sur Russell ?
Non, j'allais dire, moi je m'en fous, c'est pas exprès pour dire le contraire de Louis. Non, c'est surtout parce que il le mérite pas, voilà. Ouais, voilà, tant mieux pour lui, hein, mais il le mérite pas. Voilà.
Oui, c'est sûr. Je voulais vous entendre sur la course des Williams, les gars, parce qu'il faut quand même une perf assez exceptionnelle. Albon 7, Colapinto 8e. Je vous le disais tout à l'heure, mais Franco Colapinto a déjà marqué 4 points, c'est quasiment autant qu'Esteban Ocon. C'est surtout, après deux courses, mieux que Logan Sargeant en 36 Grands Prix, le pilote américain qui l'a remplacé dans le baquet de la Williams. Et c'est le premier Argentin à prendre des points en F1 depuis, est-ce que
Carlos
vous avez la date?
Carlos Reutemann, 82.
Ouais, mais je sais que vous avez la date, les gars, mais ménagez le suspense pour les auditeurs.
Ah bon,
je sais que vous avez bossé, vous bossez plus que moi souvent. Non, mais franchement, Colapinto, il épate tout le monde.
Bah oui.
Je sais pas qui veut y aller, mais allez-y.
Ça nous inspire.
Bah ouais, non, mais c'est super. Écoute, Wolf, on va y arriver, nous l'a sorti du chapeau, celui-là. Mais c'est vachement bien joué. Écoute, c'est génial de miser là aussi sur la jeunesse. Il a 21 ans, le gamin. Il débarque là, il l'a dit lui-même, hein, il n'était pas prévenu en plus. Parce qu'on pouvait dire qu'il avait tenu au chaud en disant, attends, on sait jamais, on va voir. Et puis non, ils ont décidé ça au dernier moment. Il est arrivé comme une fleur. Et prendre des points comme ça à son deuxième Grand Prix. Alors bon, on rappelle aussi, il n'aurait pas dû être 8, hein, il aurait dû être 10, mais ça fait rien. Il était dans les points. Non, c'est génial. Et puis alors, il va être soutenu non seulement par tout un grand pays, parce que l'Argentine, c'est quand même un sacré grand pays de sport automobile. Écoute, j'ai eu la chance d'y retourner. Petit souvenir personnel sur les traces de Fangio, là, c'était au mois de mars. Je peux vous dire que là-bas, ils sont fans de F1 et de bagnoles, mais comme jamais. C'est incroyable. C'est l'Italie, quoi. C'est vraiment... Donc là, à mon avis, avoir tout un pays derrière et peut-être même tout un continent, hein, puisque pour le moment, du côté du Brésil, c'est un peu la portion congrue aussi. Donc moi, je pense que là, c'est une perle. Puis il fait du bon boulot. Hein, et surtout, il a une référence qui s'appelle Albon, dont tout le monde dit que c'est un super cador. Donc c'est pas rien. En deux Grands Prix, il est dans les roues d'Albon. Chapeau.
Il y a un autre petit jeune aussi qui a bien cartonné, Paul, c'est Oliver Berman, mine de rien, remplacé Sainz sur une Ferrari qui avait été très bon. On sait qu'il
finit 7ème,
mais on sait qu'il sera dans une AS la saison pro, et là il marque encore des points.
Ce qui est rigolo d'ailleurs, il faut le préciser, c'est qu'il a marqué des points avec Ferrari, donc lorsqu'il avait remplacé Carlos Sainz, et il marque des points avec AS, donc en remplacement de Kevin Magnussen. Et puis pour aller un petit peu plus loin, messieurs, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la comète Oscar Piastri, on évoque Colapinto, on évoque Oliver Mann. Alors Piastri a quand même un petit peu plus d'expérience, mais c'est quand même un jeune pilote, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces gars-là sont balèzes dans leur tête, sûrs de leur pilotage, ils montent dans des monoplaces, et ils claquent des résultats. Ils n'ont plus la pression que pouvaient avoir certains pilotes à l'époque. Donc, coup de chapeau à Oliver Mann, qu'on aimait bien, hein, dans le paddock depuis le début de la saison. Et je pense que la voie est peut-être toute tracée pour Colapinto, qui a quand même marqué de gros points derrière Albon, tu le précisais, qui est un excellent pilote. Donc, ça fait du bien à la Formule 1. On se régale, hein, on cesse de le dire. On se régale avec les Verstappen, les Hamilton, les Leclerc, mais on se régale aussi avec cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, et le suspense à mes yeux est largement largement garanti.
J'ai une question juste pour Jean-Luc, deux secondes, Nico, excuse-moi. Depuis combien d'années, depuis combien de saisons on n'a pas eu, on va dire, là c'est quoi, c'est 3 écuries qui pourraient être championnes constructeurs?
Ouais. Alors écoute, toi, tu me prends au vol, mais il y a un sacré bout de temps. Je vais essayer de te faire le calcul. Déjà dans les années 2000, je pense que c'est pas le cas. 3 écuries, c'est pas le cas.
Jean-Luc, moi je pense qu'on pourrait parler du début des années 90 où il y avait Ferrari, Il y avait McLaren.
Écoute, oui, on en cherche trois. Hein. Moi, je me demande s'il ne faut pas remonter au début des années 80, une quarantaine d'années, sérieusement. Hein. Il faudrait, parce qu'après, il y a eu les périodes où Williams, McLaren qui a écrasé un peu tout, tu vois. Trois équipes en bagarre comme ça, vraiment potentiellement en capacité. Faudrait voir à quel moment de la saison aussi.
Oui, hein, c'est ça.
On est d'accord, on est à 7 GP de la fin.
Évidemment.
Mais non, moi, je pense que, allez, on va dire une bonne trentaine d'années, on dit pas de bêtises.
Parce que même la fameuse année Raikkonen-Alonso, finalement, c'est McLaren-Ferrari, il n'y a pas de troisième dans la bataille.
C'est
ça. C'est ça.
Mais messieurs, dans les années 90, on n'oublie pas quand même que Ayrton Senna était encore chez McLaren, Alain Prost était arrivé chez Ferrari, et que Nigel Mansell et Damon Hill étaient chez Williams, et qu'il y avait quand même une bagarre entre ces trois écuries. Alors, on n'a pas le décompte des points très précisément, et effectivement, mais il y avait quand même une bagarre avec trois écuries à cette époque-là.
Allez, trentaine d'années, c'est ce qu'on évoquait. Alors je voudrais dire moi un truc à propos des jeunes pilotes, c'était le sujet précédent, mais ça fait rien. Ce que on est plusieurs, ce qui manque à la F1, c'est 6 baquets. Imaginez une seconde, comme je le dis toujours, ils ont fermé la porte à Andretti comme des cons, ça à mon avis, et puis il y en a d'autres qui pourraient venir, qui sont pas loin, mais bon, on les veut pas parce qu'on veut pas partager le gâteau, il est partagé en 10, voilà, on a compris, l'histoire elle est là, mais imaginez qu'il y ait 6 baquets de plus, ce ne seraient pas les baquets de devant, ce seraient les baquets de derrière, donc ça permettrait à des gens comme Pourchaire, etc., la liste est longue, de venir en F1 également, et ce serait absolument fabuleux. Voilà, je l'ai dit une nouvelle fois.
Ça serait sympa à Zandvoort aussi. 26 bagnoles à Zandvoort, j'attends de voir.
Ils se débrouilleraient. Tu veux juste te dire.
Non, je suis d'accord.
Et ils l'ont fait dans le passé, Zandvoort, à 26 bagnoles. Donc bon, ça passait ou ça passait pas d'ailleurs.
Parfois, ça passait.
J'adore quand vous remontez dans le temps comme ça, vous parlez des années 80. On n'a pas de budget, sinon on aurait mis une petite musique de musette, un petit peu de musette et tout ça derrière vous.
C'était pas les musettes dans les années 80. Là, où est-ce qu'il nous met, lui?
C'est vrai, pardon.
Non, ça avait un peu bougé là quand même.
Pardon à tous nos auditeurs des années 80, mais on respecte, on adore. Hein, on adore. Tiens les gars, en parlant de. Ouais, non, j'allais dire de perf. J'allais dire de perf un peu vintage, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Alpine prendre des points et gagner.
Allô
Si t'es bien.
Je vous entends plus, les gars, je ne vous entends plus.
On va écouter Pierre Gasly après sa 12e place à Bakou.
Je pense que c'était une de mes meilleures courses de l'année. J'étais à la limite du début à la fin. Je pense qu'il y avait franchement rien de plus à aller chercher. Donc je suis satisfait. Après, c'est sûr qu'on finit très très loin. On savait qu'en partant hard, on allait rester dehors le plus longtemps possible en espérant un safety car. Malheureusement, il est arrivé un peu tard. Mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour nous ce week-end.
Voilà, meilleure course de la saison pour lui, 12e, il a galéré. Esteban Ocon, face à la presse, il a carrément dit, c'était un week-end pourri, focus Singapour.
Ouais, voilà. Le premier mot, non, on va penser à Singapour direct.
Ouais, il a même pas voulu parler de son week-end de rien.
Je pense qu'il peut penser à Abu Dhabi direct, Esteban.
Ouais. Ouais.
Et il va changer de costard.
Non, mais mine de rien, les amis, on le disait, la perte de Colapinto, c'est génial pour la F1, mais t'as un pilote qui en deux courses a fait aussi bien qu'Esteban Ocon. T'as Williams qui est passé devant Alpine. C'est un week-end, je vais pas dire charnière, parce qu'on sait que la saison d'Alpine elle est pourrie, et on peut même utiliser des termes un peu plus vulgaires pour la cataloguer. Mais encore une fois, ils prennent un coup sur la carafe ce week-end, Jean-Luc.
Ah ben non, mais là c'est affreux. Écoute, je te dis, c'est une longue descente. Non, mais franchement, c'est une longue descente aux enfers. Ça fait vraiment de la peine pour, j'allais dire, les piliers de l'écurie, les gens solides qui étaient là depuis longtemps, parce que ça a tellement tourné à la tête, c'est le cas de le dire, que la tête est folle maintenant, c'est n'importe quoi. On a l'impression, tu sais, que c'est un poulet sans tête, ça court. Alors, on a nommé un nouveau patron, mais le pauvre vieux, il prend ses marques, il connaît pas la F1, il débarque de je ne sais où. Non, il était brillant en F2, je vais pas du tout diminuer ses mérites, mais bon. Et puis surtout, il fait avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, malheureusement, c'est une équipe qui doit avoir beaucoup de mal à se motiver week-end après week-end. C'est une équipe à deux têtes. On l'a bien compris maintenant. Il y a les Anglais et les Français qui faisaient le moteur, je dirais, donc qui ne vont plus le faire. Donc maintenant, c'est bien. Ce sera des Anglo-Allemands, enfin, comme on veut. Donc tout va bien et on appellera ça toujours Alpine, hein. Enfin on peut l'appeler comme on veut, demain s'ils ont un autre produit marketing à lancer, une mousse à raser ou un truc comme ça, ils pourront l'appeler comme ça, ce sera pareil. non mais c'est, sérieusement, ça fait mal au cœur. Bah, Pierre il donne tout, le pauvre il dit bah oui c'est certainement mon plus beau Grand Prix de l'année, bah lui aussi il est 12, bon c'est pas ridicule, normalement c'était 14, hein, on le rappelle aussi, et puis je regardais là aussi le tour le plus rapide au-dessus d'une 48, hein. Bah écoute il est à sa place, voilà. Il est à sa place. Ils sont 15e quoi, à peu près, quand tout va bien. Donc la saison va être très 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 longue et horrible.
Et pas que la saison, je pense.
Ouais, mais là, tu remarques que Paul, d'habitude le point Alpine c'est pour toi, là je t'ai déchargé.
Je suis ravi, Nico, voilà.
Je me suis dit, faut pas non plus, tu vas mettre trop de pression négative aux
certains ingénieurs.
Paul est entré en thérapie sur le sujet, il faut le.
Ouais, c'est ça. Là, il faut me lâcher la grappe, les gars. Clairement, mais c'est vrai que j'ai rien d'autre à rajouter. C'est navrant, c'est désolant quand on connaît la vitesse de pointe de Pierre Gasly. On parle aussi de la vitesse de pointe de Esteban Ocon
et qu'on ont gagné un grand
ouais,
prix,
ouais,
hein, chacun,
mais ouais quand même, et on les retrouve si loin, que dire, et Louis a raison de préciser, la fin de saison sera longue et l'intersaison je pense sera aussi
mais c'est
bien
ça
longue,
non mais
pour,
les gars c'est,
pour
c'est ça qui est inquiétant, c'est que tu te demandes comment cette équipe va faire pour repartir, parce que entre les tensions internes, tout ce qui se passe entre l'Angleterre, la France, le départ d'Ocon, quand même tout ce qui s'est passé autour d'Esteban, ils vont avoir une line-up de pilotes aussi qui change, même si Pierre Gasly reste, ça fait quand même énormément de changements.
Vous allez voir l'hémorragie, tout le monde le dit, l'hémorragie effectivement à Viry-Châtillon, évidemment, parce qu'il y a d'excellents motoristes, là, quoi qu'en dise Briator ou qui tu veux, ou De Meo, il y a des gens qui ont quand même fait des moteurs fabuleux, puis je répète, c'est l'héritage, même si ce ne sont pas les mêmes, de Bernard Dudot, de Denis Chevrier, enfin des gens qui ont quand même inventé le turbo, ou en tout cas adapté le turbo à la F1 et ont fait gagner tout le monde, et le V10, c'est quand même pas rien, tu vois, c'est des époques. D'ailleurs, par parenthèse, le petit billboard de lancement là, de Paddock RMC, c'est plutôt un V10, un V10 Renault de la grande époque. C'est pas les moulins à café d'aujourd'hui. Hop, ça y est, je l'ai dit.
Donc tu vois, Jean-Luc, c'était quand même un peu mieux avant. On y revient.
Moteurs, ouais. Alors là, ça, je peux te dire que c'est sûr. Alors là, quand tu veux.
On est tous d'accord.
Les moteurs, là, on est tous d'accord. Ouais.
Alors là, ouais, dramatique, mais il y aura un vrai sujet Alpine à l'intersaison. Et je pense que ça va valoir 2-3 podcasts. D'ailleurs, on va vous proposer, hein, bien sûr, un gros contenu sur Alpine et sur tout ce qui se passe en interne quand on pourra le faire. Les gars, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter?
Ah bon, déjà
c'est large.
Ça fait combien de... Ça faisait 7 Grands Prix qui avait pas eu de voiture de sécurité, mais ça fait combien de paddock RMC qu'on n'a pas parlé de, je sais même plus comment il s'appelle, de Kick là, de Sauber.
Ah oui, c'est vrai.
Ah ils étaient là.
Ouais, non mais c'est ça, c'est fou. Ils sont prêts, ils arrivent à faire l'exploit d'être presque plus inexistant qu'Alpine. Enfin c'est dingue.
14e et 16e.
Ils font les 20 voitures, c'est tout, hein, tu sais.
Ouais, c'est ça.
C'est signé, hein, parce que voilà, normalement, la FOM doit fournir 20 bagnoles aux organisateurs. Donc ouais.
Il y a Daniel Ricciardo aussi, dont on parle absolument pas.
C'est vrai.
Pourtant, on l'aime bien, Daniel.
Bah ouais.
Il est sympa.
Il est devenu anonyme.
Il est sympa.
Il est très sympa.
Chic type.
Voilà. On peut dire autre chose.
Bon, les gars,
il est australien comme Piastri.
On va faire comme Esteban Ocon. Je vous dis, on se voit après Singapour, très rapidement. N'hésitez pas bien évidemment à nous mettre une note, c'est super important pour le référencement.
Et ça va être chaud, Singapour, moi je vous le dis.
Ah, un petit prono les gars, qui c'est qui gagne à Singapour? Parce que vu qu'on se trompe dans tous les épisodes depuis le début de saison, je me dis, on va pas s'arrêter là. Bon, Verstappen il peut... Non, la semaine prochaine
Moi je pourrais dire Verstappen, mais j'ose plus parier, j'ai dit trop de bêtises.
Moi j'ai un ami Flavio, il m'a donné une combine. Si on fait mettre Perez dans le mur au bon moment, c'est Verstappen.
Et Russell.
Ça vous plaît ça, non?
Après 3 safety cars dans le dernier tour, Russell qui était 8e.
Voilà, c'est ça.
Les gars, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous mettre une petite note, de venir commenter sur tous nos réseaux sociaux, les épisodes du Paddock RMC. Si vous aviez envie d'évoquer certains sujets, si vous voulez entendre certaines voix aussi, parce qu'on a un casting super large dans le Paddock, vous n'hésitez pas. Vous venez sur les réseaux RMC Sport et vous venez nous en parler. À la semaine prochaine. Bye bye, les gars.
Ciao.
Le Paddock RMC.